dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Comment une révolution advient-elle? Des milliers de pages ont été noircies pour tenter de comprendre les mécanismes qui produisent les circonstances aboutissement au changement du cours de l'histoire. Elles peinent cependant à saisir ce qui est le cœur de l'événement. Car la révolution, c'est d'abord une aventure humaine. Il y a un siècle, les manifestations spontanées des ouvrières de Petrograd marquaient les prémices de la révolution russe. En quelques jours, le prolétariat de la capitale, qui, en pleine guerre mondiale, s'était porté à l'assaut de l'autocratie tsariste, jetait à bas l'un des régimes les plus tyranniques d'Europe. Durant 8 mois, malgré le développement à un rythme inégal, dans les villes, les campagnes, et sur les milliers de kilomètres de front où combattaient les soldats, malgré les périodes de stabilisation, de reflux, ce mouvement ne devait pas s'arrêter. Le journaliste, poète et écrivain américain John Reed est à Petrograd quand éclate la révolution d'octobre 1917. Le récit qu'il livre de ces journées historiques, véritable épopée des temps modernes, plonge dans la déferlante révolutionnaire soviétique qui va bouleverser le XXe siècle. La révolution en direct donc, son ébullition, sa fébrilité, la détermination des bolcheviks, les idéaux, les erreurs de jugement aussi. Le tumulte, la parole libérée en des joutes oratoires sans fin. La violence larvée, puis finalement bien présente, même si elle est plutôt laissée à l'arrière-plan dans le récit. La force particulière de John Reed est de nous entraîner au cœur des événements. Le plaisir, la complicité entre en jeu, résonnant avec l'humour et l'ironie de John Reed, rejoignant sa compréhension des événements. L'auteur fait œuvre de poète, en restant à l'écoute des aspirations humaines fondamentales, comme ses camarades russes sur l'aide pour les revendications des ouvriers et des paysans russes, la paix, la terre, le contrôle ouvrier, la liberté. Né à Portland en 1887, John Reed, rejeton de la bourgeoisie américaine, découvre les idées socialistes au cours de ses études à Harvard. Diplômé en 1910, il se tourne alors vers le journalisme et s'engage en faveur des mouvements ouvriers. Après avoir suivi Pancho Villa durant la révolution mexicaine, il se rend plusieurs fois en Europe et découvre la Russie en 1915. Farouchement opposé à la Première Guerre mondiale et au régime tsariste, il arrive à Petrograd avec son épouse Louise Bryant en septembre 1917 et assiste avec enthousiasme à la révolution d'octobre. Après avoir contribué à la naissance du Communist Labour Party aux États-Unis, il retourne en Russie fin 1919 pour participer aux activités de l'Internationale communiste. Victime du typhus en 1920 à l'âge de 32 ans, il est enterré sur la place Rouge de Moscou, dans la nécropole du mur du Kremlin, aux côtés des révolutionnaires de 1917 dont il avait décrit le combat. En 2017, Michel Sidorov réalisait une adaptation radiophonique de son ouvrage le plus célèbre, 10 jours qui ébranlèrent le monde. C'est ce feuilleton que nous proposons aux auditeurs de l'Égrégore, une série en 10 épisodes, pour se rappeler, en reprenant les mots de Paul Matic, que la révolution est une belle aventure. Épisode 5. Du chaos au grand soir. Les soldats de la forteresse Pierre et Paul se rangent du côté bolchevique après un discours de Trotsky. La boucherie du front doit enfin cesser. Le bataillon de cyclistes manifeste son enthousiasme. Tout s'accélère.
Dans les rapports entre un gouvernement faible et un peuple en révolte, il arrive toujours un moment où tout acte du pouvoir ne fait qu'exaspérer les masses, et tout refus d'agir de sa part qu'exciter le mépris. Le projet d'abandonner Petrograd déchaîna une tempête.
J'affirme solennellement, oui, j'affirme, que jamais, au grand jamais, le gouvernement n'a eu l'intention d'abandonner Petrograd.
Пять рублей.
Вот, товарищ. Спасибо.
Рабочий путь.
Mis au pied du mur par la révolution, le gouvernement provisoire des bourgeois essaie de se tirer d'affaire par des mensonges, en affirmant qu'il n'a jamais songé à fuir Petrograd ni à livrer la capitale.
Товарищ, помогите мне.
Да, да.
Take that! Go away! Go away! Basta! Basta! Antisémite!
Merci, camarade. Et merci aux camarades américains. Si je m'attendais...
Не за что нормально, non, товарищ. Но я потерял газету. J'ai perdu mon journal.
Ну вот, для тебя это бесплатно. Pour toi, c'est gratuit.
Спасибо, спасибо. Où j'ai pu mettre ce journal? Ah, voilà. Le Rapuchiput du 22 octobre. À Kharkov, 30 000 mineurs se sont organisés. Ils ont pris pour devise le préambule des statuts des IWW. Il n'y a rien de commun entre la classe des travailleurs et la classe des employeurs.
Ну, товарищи, вот, мы решили принять тот вводный пункт устава индустриальных рабочих мира, который гласит, класс рабочих и класс предпринимателей не имеют между собой ничего общего.
Yeah!
Tu te souviens que les mineurs de Kharkov avaient adopté le préambule des statuts des IWW?
Oui, je crois bien que je le rappelle dans Six Months in Russia. À propos, il sort la semaine prochaine. Il y aura une petite fête. Je compte sur toi.
Ah, viens par ici. Oui, nous fêterons ça ensemble.
C'est merveilleux de partager toutes ces choses, de travailler ensemble. Dépêche-toi de terminer ton livre.
Tu dis toi-même que j'y travaille beaucoup trop, que tu n'as plus le temps de me voir.
C'est vrai. Je suis inquiète de te voir si fatiguée.
Ça ira.
T'en es où ?
Au préparatif de l'insurrection. Lénine et Trotsky en avaient fait admettre le principe et l'urgence. À présent, Lénine est venu à Smolny, probablement encore déguisé. Cher Zalkind, heureusement qu'il m'a prévenu. Mais la réunion est à huis clos et encore cette fois, je ne pourrai pas entendre Lénine de mes propres oreilles. Enfin, pas tout à fait.
John, toujours là au moment historique. Je sais que Zalkind vous a prévenu. Nous vous faisons confiance. Voilà ce que Lénine vient de déclarer. Le 24 octobre, il sera trop tôt. Il faut que l'insurrection s'appuie sur la Russie tout entière. Or, le 25, tous les délégués au congrès pan-russe des soviets ne seront pas encore arrivés. D'autre part, le 26, il sera trop tard. À cette date, en effet, le congrès sera organisé. Et il est difficile à une grande assemblée constituée de prendre les mesures promptes et décisives. C'est le 25 que nous devons agir. Le jour de l'ouverture du congrès, afin de pouvoir lui dire « Voici le pouvoir, qu'allez-vous en faire ?»
Dans 4 jours. Je me tiens prêt.
Vous avez la chance de pouvoir rendre compte d'un événement historique considérable, au moins aussi important que la Révolution française. Notez tout, les préparatifs ici, à Smolny, ce qui se passe dans les usines, dans les casernes, dans les rues. Lénine est au courant par Trotsky de votre présence avec les camarades Bill Chatov et Albert Rhys-Williams. Toutes les portes vous sont ouvertes.
Camarades, le gouvernement a envoyé un détachement de cadets et de miliciens envahir l'imprimerie de Rabotchi Puch. Ils ont évacué le local et mis les scellés sous la porte. Ils ont emmené 2 camarades. J'ai réussi à m'échapper.
Ils veulent interdire nos journaux alors qu'ils déclarent ne pas vouloir s'en prendre à la liberté de la presse. Je demande aux camarades d'envoyer immédiatement un groupe de gardes rouges libérer l'imprimerie.
Je viens avec vous.
Inutile, John. Ils vont très bien se débrouiller. Montez plutôt voir le camarade Antonov. Il a des choses importantes à vous montrer. Ok ? C'est comme ça qu'on dit chez vous. Ok, n'est-ce pas ?
Ça glace, Yen.
Vous êtes John Reed, journaliste américain, ami du parti bolchevique, c'est cela?
J'ai l'impression de venir consulter un médium.
Rassurez-vous, ce n'est pas ma spécialité. Je suis plutôt dans le rationnel. Quoique les mathématiques, mon métier comporte aussi leurs irrationnels.
Je commence à comprendre pourquoi Volodarsky me proposait de monter vous voir. C'est un plan de la ville?
Oui, et vous voyez, souligné en rouge, les lieux que nous autres bolcheviques contrôlons.
L'usine Poutilov.
Important, mais elle est un peu éloignée du centre politique, le Palais d'Hiver et le Palais Marie.
Encore des usines. L'usine de câbles d'acier. La forteresse Pierre et Paul, juste de l'autre côté de la Nieva.
Les soldats de la forteresse sont en train de basculer majoritairement en faveur des soviets et du comité militaire révolutionnaire. C'est un appui essentiel. Il ne reste plus qu'à convaincre le bataillon de cyclistes et soldats motorisés qui s'y trouvent. Ils arrivent fraîchement du front et n'ont pas participé à l'évolution révolutionnaire de la garnison. Les cyclistes sont un petit peu les aristocrates de la troupe. Quand on est sur son engin, on a l'impression d'être seul maître à bord. Mais ces gars-là ont tout autant horreur de cette guerre que les fantassins de la garnison. Il y aura un meeting après-demain sur l'esplanade de la forteresse. Trotsky doit y prendre la parole.
dans le golfe de Finlande, le croiseur Aurore.
Il ne va pas y rester longtemps.
Le central téléphonique n'est pas souligné en rouge.
Nous y avons des militantes, mais elles sont sous la surveillance de leur chef, de vieilles tsaristes, qui leur répètent matin et soir qu'elles n'ont rien à voir avec les ouvriers et les grossiers paysans. Et puis, des Junkers y sont postés.
La gare de Finlande est soulignée en pointillés rouges. Pourquoi cette nuance ?
Bien un peu pour les mêmes raisons que pour le central téléphonique. Il y a un fossé de plus en plus profond entre les dirigeants mencheviks installés depuis longtemps à la tête du syndicat des cheminots, le Vigel, et la base, qui lit nos journaux et parfois est organisée au parti bolchevique.
Et vous pensez que la situation peut se retourner en votre faveur en 4 jours ?
Partout ailleurs, nous sommes majoritaires et écoutés. Vous avez remarqué comme tout s'accélérait ?
Le lundi 22 octobre au matin, j'entrais au Palais Marie pour savoir ce qui se passait au Conseil de la République. Un SR de gauche, Karilin, donnait lecture d'un article de journal.
Voici ce que le Times de Londres écrit dans son éditorial. Le remède contre le bolchevisme, ce sont les balles. Oui, oui, c'est ce que vous pensez, vous, les cadets. C'est votre opinion.
Oui, parfaitement.
Les balles.
Les balles.
Oui, c'est ce que vous pensez. Seulement, vous n'avez pas le courage d'agir.
Au milieu de ce tumulte, les bancs des bolcheviks étaient toujours aussi vides. La vraie vie était ailleurs.
Camarades soldats, le régiment de la garde Pavlovski l'a déclaré solennellement. Il ne reconnaît désormais que l'autorité du comité militaire révolutionnaire. D'un autre côté, vous avez entendu les représentants de Kerensky et des mencheviks. Que vous propose-t-il ? De continuer la guerre, cette boucherie au service des banquiers, de supporter encore le pouvoir des grands propriétaires. Nous savons que le gouvernement provisoire prépare un mauvais coup. Déjà, des arrestations sont lancées contre les dirigeants élus du Soviet de Petrograd. Vous êtes à l'heure du choix. Vous avez écouté le camarade Trotsky. Il vous a décrit les immenses possibilités qui sont les nôtres. Si nous maintenons notre exigence du pouvoir au Soviet. Il vous a décrit aussi les manœuvres criminelles du gouvernement provisoire, alliés des généraux monarchistes, généraux qui ont organisé le désastre de cette guerre. Je propose que les camarades cyclistes, qui n'ont pas encore décidé quelle autorité militaire ils reconnaîtraient, se rangent à gauche pour le comité militaire révolutionnaire et à droite pour le district militaire. Êtes-vous d'accord ?
Monsieur John Reed, vous assistez à un événement historique.
Je regrette d'avoir manqué votre intervention, monsieur Trotsky.
Aucune importance. Un discours parmi tant d'autres. Mais je ne pouvais me résoudre à imaginer que l'ensemble des soldats de la forteresse ne nous suivraient pas. Il eût été dommage d'intervenir de l'extérieur. Nos ennemis nous auraient alors accusés de pratiquer un coup de force. Ah, voilà nos cyclistes qui saluent le choix du comité militaire révolutionnaire comme autorité militaire.
Le 24 octobre, je repris mes allées et venues entre le Palais Marie et Smolny.
Montre-moi ça, camarade. Tiens.
5 roubles.
Ils ont interdit la Nouvelle Russie, le Jevoe Slovo et les journaux bolcheviques comme le Rabotchi Putsch et le Soldat. Ils ont ordonné l'arrestation des chefs de soviets de Petrograd et des membres du comité militaire révolutionnaire. Ils ont l'air de s'affoler là-dedans.
L'employé du vestiaire qui m'appelle Monseigneur, le vieux monde.
Спасибо, товарищ.
Et au moment où les soviets d'ouvriers s'apprêtent à prendre le pouvoir.
Je me dois de mentionner les passages les plus caractéristiques d'une série d'articles publiés dans le Rabotchi Putsch par le criminel d'État Ulianov Lénine, qui actuellement se cache et que nous nous efforçons de découvrir. Dans une série de manifestes intitulée « Lettres aux camarades », ce criminel invite le prolétariat et la garnison de Petrograd à répéter l'expérience des journées des 16 et 18 juillet et démontre la nécessité d'une insurrection armée immédiate. D'autres chefs bolcheviques ont également appelé à l'insurrection. Il convient de souligner tout particulièrement l'activité du président actuel du Soviet de Petrograd, Bronstein Trotsky. Et laissez-moi vous citer ce passage particulièrement hideux et antipatriotique du criminel Ulianov Lénine. Pensez que nos camarades allemands n'ont que le seul Karl Liebknecht, qu'ils n'ont ni journaux, ni liberté de réunion, ni Soviet. Dans de telles conditions pourtant, ils ont organisé un soulèvement dans la flotte et nous, qui avons des douzaines de journaux, la liberté de réunion, la majorité dans les soviets, nous, les internationalistes prolétariens, jouissant de la situation la plus favorable dans le monde, nous refusons de soutenir les révolutionnaires allemands en nous insurgeant à notre tour. On m'apporte à l'instant la proclamation qu'ils sont en train de distribuer au régiment. La voici. Le soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd est en danger. J'ordonne la mobilisation immédiate sur le pied de guerre de tous les régiments qui attendront des ordres ultérieurs. Tout retard dans l'exécution du présent ordre ou tout refus de s'y soumettre sera considéré comme un acte de trahison envers la révolution. Et c'est signé le comité militaire révolutionnaire pour le président Podvoïski, le secrétaire Antonov. Il y a bien là, pour parler la langue judiciaire, état de rébellion, tentative de dresser la populace contre l'ordre existant. Au nom du gouvernement provisoire, j'affirme que le gouvernement n'a jamais violé la liberté qui appartient à tout citoyen de faire usage de ses droits. Mais aujourd'hui, il faut en finir avec les éléments, tous les groupements ou partis qui osent porter la main sur la libre volonté du peuple russe et menacent d'ouvrir le front à l'Allemagne.
Monsieur Goltz, du groupe Menchevik, demande la parole.
Certes, les bolcheviks font une politique démagogique et criminelle en exploitant le mécontentement populaire. Mais il faut reconnaître que de nombreuses revendications n'ont pas encore reçu de satisfaction. Les questions de la paix, de la terre, de la démocratisation de l'armée devraient être posées de telle façon qu'aucun soldat, aucun paysan, aucun ouvrier ne puisse douter que le gouvernement s'efforce fermement, résolument de les régler.
Au nom des Mencheviks internationalistes, je demande la parole. Le terme de « populace » brandi par le président du Conseil, M. Kerensky, quand il s'agit d'une partie importante du prolétariat et de l'armée, est une insulte. Une excitation à la guerre civile. Loin d'éliminer les causes de cette rébellion, L'attitude de M. Kerensky ne ferait que les renforcer. Je propose que nous mettions au point et votions une résolution disant que oui, la démonstration armée qui se prépare depuis quelques jours risque de provoquer la guerre civile. L'entrée en scène des sangs-noirs, de toutes sortes de pogromistes. Mais que la raison en doit être cherchée dans le retard apporté à certaines mesures urgentes. Il est donc nécessaire, avant tout, de promulguer immédiatement un décret remettant les terres au comité agraire et d'adopter une politique extérieure énergique en proposant aux alliés de proclamer leurs conditions de paix et d'entamer des négociations. Il est nécessaire de créer, pour enrayer l'anarchie et l'activité pogromiste, un comité de salut public, composé de représentants de la Douma municipale et des organes de la démocratie révolutionnaire, comité agissant avec le gouvernement provisoire.
Lazarinov, un des responsables du comité militaire révolutionnaire.
Et je vous ai aperçu l'autre soir, entrant dans ce bureau, et je m'en souviens parce que d'une part, vous êtes fort jeune, et d'autre part, le bureau porte le numéro 17, un chiffre remarquable.
Monsieur Reed, vous n'allez pas devenir superstitieux comme les Russes?
Ah non, assurez-vous, même si je tiens plus que tout à la réussite de votre entreprise.
Tu peux dire notre entreprise. Je viens d'être recruté par le comité militaire révolutionnaire.
La révolution n'a pas de frontières.
Une nouvelle que vous devez connaître et qui m'a enchanté. J'ai rencontré à l'angle de la Morskaya et de la Nevski des matelots qui portaient les bérets des croiseurs, l'aurore et aube de la liberté.
Avrora Izaria Svobody.
Ils étaient très gais et m'ont déclaré « Kronstadt est en route ». C'était comme si, en 1792, on avait dit dans les rues de Paris « Les Marseillais sont en route ».
Il y a à Kronstadt 25 000 matelots, bolcheviques convaincus et qui n'ont pas peur de la mort.
Ils sont le cœur de la révolution. Mais dites-moi, camarade, il se fait tard, sortons un moment dîner en ville.
Et dire qu'à l'Opéra Marie, on donne ce soir Boris Godounov. Comme d'habitude.
J'ai participé à ma première action militaire aujourd'hui. Nous avons pincé le ministre de la Justice et le ministre des Cultes. Ils sont sous clé à présent. Un régiment est en marche pour s'emparer du central téléphonique, un autre occupera l'agence télégraphique et un troisième la Banque d'État.
La garde rouge est sur pied.
Слышите? Там стреляют.
Ce sont les matelots de Kronstadt qui referment le pont de la Neva. Les Junkers voulaient le tenir ouvert, afin d'empêcher les ouvriers des usines et les soldats du quartier populaire de Viborg de se joindre aux forces des soviets du centre-ville.
Derrière nous, le grand Smolny tout illuminé bourdonnait comme une gigantesque ruche.
10 days that shook the world. 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed. Adapté par Michel Sidorov. 5e épisode, du chaos au grand soir. Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louis Bryant, Nicolas Struve, Bill Chatoff, Jean-Benoît Souille, Kerensky, Sergei Vladimirov, Lénine, Thibaut Vincent, Volodarsky, Pierre Val, Antonov, Jérôme Quintard, Léon Trotsky, Olivier Cruveillet, Martov, Vincent Marguet, Lazarimov, Arnaud Bédoué, Tchoudovski et Daria Kropivianska, Norbert Ferrer, Cecilia Dassonville, Véronika Ovchinikova, Aristide Legrand, Jean-Marc Charrier, Jean Riffel, Guillaume Bourboulon. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dali Yara, Mathieu Leroux, Olivier Dupré, Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov.
Abaissez ce pont! Il est minuit! Vous n'empêcherez pas les ouvriers de Viborg de nous rejoindre. Une dernière fois, abaissez ce pont! À mon commandement, feu!
Non.
La prochaine fois, nous ne tirerons pas en l'air.
Nous, les Junkers, nous sommes là pour protéger le gouvernement légitime.
Oui, c'est ça. Et la légitimité, c'est celle des soviets. Et vos amis jusqu'au boutistes n'y sont plus majoritaires. Quant à vous, vous devriez prendre exemple sur vos camarades élèves officiers qui ont rejoint le parti bolchevique.
À présent, dégagez. Soldats. À présent, camarades, nous nous dirigeons vers la banque d'État. La nuit sera longue.
Épisode 6. La chute du gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire est tombé. Kerensky est en fuite. John Reed s'introduit dans le palais d'hiver où ronflent les Junkers, les élèves officiers, qui ont vidé les caves. Les ouvriers, les gardes rouges, s'organisent.
Allô ?
John, c'est Max. Où en es-tu ?
J'ai terminé le prologue et le rappel des origines historiques de la révolution russe. J'ai aussi terminé la partie qui concerne la montée de la révolution que j'ai appelée « La tempête approche ». Et je viens d'achever le chapitre intitulé « Le grand soir ». J'en suis à la chute du gouvernement provisoire, et là, j'aurai besoin d'un peu de place.
Et d'un peu de temps, j'imagine.
Tu es inquiet ?
Comme toujours. Les ligues patriotiques et les flics sont sur les dents. Nous savons qu'ils aimeraient mettre la main sur tes manuscrits et empêcher la publication.
Je tape tout sur papier carbone. Je te donnerai le double ce soir à la petite réception pour la sortie du livre de Louise.
Ok. Bon travail. À ce soir.
Le mercredi 25 octobre, je me levais très tard. La forteresse Pierre et Paul tirait le coup de midi comme je descendais la perspective Nevski. Il faisait un temps froid et humide. La porte de la banque d'État était fermée et gardée par quelques soldats, baïonnettes au canon.
À quel camp appartenez-vous ? Au gouvernement ?
Fini le gouvernement. Ça va bon, quoi.
La nuit avait déposé sur les murs une nouvelle floraison d'appels aux paysans, aux soldats du front et aux ouvriers de Petrograd, contre l'insurrection.
John, tu prends à décoller les affiches révolutionnaires.
Albert, regarde! J'ai raflé en un coup toute la révolution et la contre-révolution.
Pas toutes. L'affaire est loin d'être terminée. Le gouvernement provisoire est tombé. Le congrès panrusse des soviets d'ouvriers et de soldats s'ouvre aujourd'hui. Mais on ne sait pas encore comment les leaders des autres partis vont accueillir la nouvelle.
En ce qui concerne les Mensheviks et les SR, tu as un doute ? Pas moins. Bon, je rapporte à l'hôtel mon paquet d'archives. Ce n'est pas loin.
Louise est encore au palais d'hiver. Elle interviewe les Junkers qui y sont enfermés.
Je sais qu'elle est partie là-bas en pleine nuit avec Bill Chatov. Elle voulait savoir. Moi, je ne tenais plus debout.
Tiens, je te donne le dernier numéro du journal bolchevique, Le Jour. Il y a un article de Zinoviev qui résume assez bien l'alternative du moment.
Merci.
À ce soir, à Smolny, pour l'ouverture du deuxième congrès panrusse des soviets.
Tout ouvrier, tout soldat, tout vrai socialiste, Tout honnête démocrate se rend compte qu'il n'y a dans la situation actuelle qu'une alternative. Ou bien le pouvoir restera à la clique des bourgeois et des grands propriétaires, et alors ouvriers, soldats et paysans peuvent s'attendre à toutes sortes de répressions, à la continuation de la guerre, à la famine et à la mort.
Bon sang ! C'est devant l'hôtel militaire, place Saint-Isaac !
Restez pas là, citoyens. Ça commence à canarder.
Mais c'est pour ça que je suis venu. Je suis un écrivain socialiste américain.
Provocateur. Ils ont tiré sur nous. Ça vient de là-haut. Sur le toit de l'hôtel.
Camarades, on fonce là, on les a arrêtés.
Va-t-on se battre?
Ça ne va pas tarder.
Allez-vous-en d'ici, camarades. Ou vous serez blessés. Ils vont arriver par là.
Qui cela?
Ça, frère, je ne sais vraiment pas.
Eh les gars, vous voulez savoir comment s'est tenue la dernière séance du Conseil de la République?
Ouais.
Eh bien voilà, nous sommes arrivés, nous avons garni toutes les portes avec des camarades. Et puis je me suis avancé vers le contre-révolutionnaire.
Cornilovis.
Exactement. Donc je me suis avancé vers le contre-révolutionnaire qui occupait le fauteuil du président. Fini le conseil, je lui ai dit. Rentre vite chez toi.
Kerensky n'était pas là?
Non. Tiens, c'est vrai ça.
Apparemment, ça n'a pas été trop difficile. Le fruit était mûr et pas grand monde pour l'empêcher de tomber. Tout a l'air de fonctionner comme d'habitude. Le concierge de l'hôtel a bien ri quand il m'a vu revenir avec mon paquet d'affiches. Il m'a demandé si je comptais les revendre en Amérique. Heureusement, les tramways circulent. Avec tout ce monde sur la perspective Nevski, les gens qui s'invectivent, les coups de feu des provocateurs, je serais arrivé ce soir au Palais d'Hiver.
Le général Alexeïev. Comme supérieur et comme membre du Conseil de la République, j'exige qu'on me laisse passer.
Excellence, l'accès au palais est strictement interdit. Je n'ai pas le droit.
Soldat, je suis votre supérieur.
Si vous étiez Saint-Michel en personne, vous ne passeriez pas, Excellence. Citoyen.
Voici mon laissez-passer établi par le soviet de Petrograd à Smolny.
Je n'ai pas ordre de laisser entrer avec ce genre de document.
Je suis citoyen américain, ami de la Révolution. Voici mon passeport.
Dans ce cas, vous pouvez entrer, camarade.
Oh, ouvrez la barrière. Donnez-moi ça.
C'est le château de la Belle au bois dormant, ici.
Alors embrasse-moi, pour me réveiller tout à fait.
Sleeping Beauty.
Monsieur l'officier, vous sortez du bureau de Monsieur Kerensky. Pourrions-nous l'interviewer ?
Non, je regrette. Alexandre Féodorovitch est très occupé en ce moment. En réalité, il n'est pas ici.
Où est-il ?
Il est parti au front. Il n'y avait pas assez d'essence pour son automobile et nous avons dû en emprunter à l'hôpital anglais.
Les ministres sont-ils ici ?
Ils sont en séance. Je ne sais pas au juste dans quelle salle.
Est-ce que les bolcheviks vont arriver ?
Sans aucun doute, ils vont venir. J'attends d'une minute à l'autre un coup de téléphone m'annonçant leur arrivée. Mais nous sommes prêts. Nous avons des Junkers dans le palais. Là, derrière cette porte.
Pouvons-nous entrer ?
Non, non, impossible. Ce n'est pas permis. Je suis attendu. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Quand je pense que tu dormais sur cette chaise, Kerensky est peut-être sorti sur la pointe des pieds et t'est passé sous le nez sans que tu te rendes compte de quoi que ce soit.
Il n'est pas permis d'y entrer.
Et pourquoi la porte est-elle fermée à clé ?
Pour que les soldats ne sortent pas. Voilà. Нельзя. Горле пересохло, Дав. Чай, можно выпить.
John, regarde. La clé est dans la serrure.
Le tsar recevait dans ce genre de pièces, j'imagine.
Tous ces tableaux représentent les grands moments de la Russie, du point de vue des tsars. 12 octobre 1812, l'incendie de Moscou. Regarde là, Napoléon sur son cheval.
Et c'est le jour où Napoléon a ordonné à son armée d'évacuer Moscou. 6 novembre 1812. Davout est battu par Kutuzov. Mais grande victoire sur Napoléon. Mais il n'y a pas un seul tableau sur les décembristes de 1825. Il faut dire qu'ils sont à l'origine du mouvement révolutionnaire russe.
Je vois à la façon dont vous admirez les tableaux que vous êtes étranger. Vous êtes américain. Enchanté. Je suis le capitaine d'état-major Vladimir Artsibachev, à votre disposition.
Comment jugez-vous la situation ?
Catastrophique. Ce n'est pas seulement les bolcheviks. Toutes les belles traditions de l'armée russe sont foulées aux pieds. Regardez ces élèves de l'école d'officiers, nos fameux Junkers. Selon vous, ce sont là des gentlemen ? Kerensky n'aurait jamais dû ouvrir les portes aux hommes du rang. À présent, le grade d'officier n'est plus l'apanage des jeunes gens bien nés. Tout soldat capable de passer un examen peut devenir officier. Bon, je voudrais bien quitter la Russie. Je suis décidé à entrer dans l'armée américaine. Pourriez-vous en parler à votre consul et me faciliter la chose ? Je vais vous donner mon adresse.
Capitaine, nous n'avons pas les relations que vous imaginez.
Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Voici, 2e école des cadets d'Oranienbaum, vieux Peterhof. On a passé en revue les troupes ce matin. Le bataillon féminin a décidé de rester fidèle au gouvernement.
Les femmes soldats sont dans le palais ?
Oui, mais dans les salles de derrière, afin que rien ne leur arrive. S'il se passe quelque chose, c'est une grosse responsabilité. secours.
Ce n'est rien. Juste le croiseur Aurore qui tire à blanc. Ils veulent nous impressionner. Nos Junkers ne sont pas aussi ridicules que certains le prétendent. Regardez ces trois compagnies. Elles partent occuper le central téléphonique. Sans le téléphone, les bolcheviks sont fichus. À présent, je vous quitte. Pensez à moi pour l'armée américaine.
Messieurs, c'est peut-être la rencontre avec la gloire pour vous.
Nous sortons du rang, voyez-vous. Et nous n'avons pas envie d'être aussi impopulaires que nos collègues issus de la noblesse.
Et si les bolcheviks viennent ?
Si les bolcheviks viennent, nous leur montrerons comment on se bat. Ils ont peur de se battre. Ce sont des poltrons. Mais si par aventure nous avions le dessous, eh bien... chacun de nous aura toujours une balle pour soi.
Les militaires révolutionnaires à l'île d'attendre. Impossible de tirer, le bataillon féminin est là-dedans. On dirait alors que nous avons tiré sur des femmes russes.
J'aperçois le capitaine Gomberg, un menchevik belliciste. Il est secrétaire de la section militaire de son parti.
Capitaine Gomberg, pouvez-vous me dire si l'insurrection a vraiment eu lieu ?
George Knight. Les bolcheviks peuvent s'emparer du pouvoir. Mais ils ne le garderont pas plus de 3 jours. Ils n'ont pas d'homme de gouvernement. Peut-être vaut-il mieux même qu'ils soient mis à l'épreuve. Ça les achèvera.
22 heures déjà. Il faut arriver avant l'ouverture du 2e congrès pan-russe des soviets.
Il n'y a plus de tramway. Ils sont en grève.
Marchons jusqu'à Smolny.
Ah, monsieur Kameniev, pouvez-vous nous dire où en est l'insurrection ?
J'ai très peu de temps, monsieur Reed. Je peux vous lire la déclaration que le soviet de Petrograd vient d'adopter. Le soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd, saluant la révolution victorieuse accomplie par le prolétariat et la garnison de Petrograd, souligne particulièrement l'union, l'organisation, la discipline et la coopération parfaite des masses au cours du soulèvement. Rarement moins de sang fut répandu, et rarement insurrection connut pareil succès.
Alors, vous considérez la partie comme gagnée ?
Il reste tellement à faire. Il faut donc commencer.
Monsieur Riazanov, vous qui êtes vice-président du Conseil des syndicats, que pensez-vous de la situation ?
C'est insensé. Insensé. Les travailleurs d'Europe ne bougeront pas. Toute la Russie.
John, Louise. J'étais à la séance extraordinaire du soviet de Petrograd. Kameniev et Riazanov, que tu viens de voir complètement affolés, ont été vertement critiqués par Lénine. Kameniev, avec Zinoviev, souviens-toi, avait publié un texte dans le journal de Gorky, La Novaya Zhizn, pour dénoncer les préparatifs de l'insurrection. Autant dire qu'ils livraient les plans à l'ennemi. Jusqu'au bout, ils se sont opposés à l'insurrection. Bon, je rejoins Lénine et les camarades au comité militaire révolutionnaire.
Vous, foncez à l'ouverture du congrès des soviets.
Lénine ne viendra pas ?
Attends, il viendra à la séance de demain quand le congrès sera déjà ouvert. Mais il peut compter sur Trotsky. Je remonte au CMR.
Philistin Sikouri. Ne fumez pas, camarade.
Le Menchevik Dan va prendre la parole.
C'est un homme fini. Il ne voudra pas du pouvoir que les ouvriers et les soldats lui proposent. Et dire qu'au-dessus de nous, dans le bureau 17, le comité militaire révolutionnaire organise l'insurrection populaire dans les moindres détails.
Le pouvoir est entre nos mains.
Загружай! О, осторожнее, осторожнее!
Ищу!
Это Шлисков!
Ищу!
Où allez-vous avec votre camion?
En ville.
Je peux monter?
Venez avec nous, mais il y aura certainement des coups de fusil.
Поехали! Быстрее, быстрее, ребята!
Faites comme moi, déchirez un paquet de tracts et lancez-les aux passants. Ivan, ouvre un paquet de journaux et lance-les aussi. Ah. Ils courent pour les attraper.
Voilà une façon moderne de diffuser les tracts et les journaux. Un camarade américain a diffusé des tracts contre la guerre depuis un avion sur New York.
Vous, les Américains, vous faites tout en grand.
Ouais, notre gouvernement aussi, dans la répression. Le camarade est en prison pour longtemps.
Поручение революционного военного комитета.
Voilà les dernières nouvelles, camarade.
Давай, давай.
Citoyens de Russie, le gouvernement provisoire est déposé. Le pouvoir est passé aux mains du comité militaire révolutionnaire, l'organe du soviet des députés ouvriers et soldats de Petrograd, qui se trouve à la tête du prolétariat et de la garnison de Petrograd. La cause pour laquelle le peuple est entré en lutte, proposition immédiate d'une paix démocratique, abolition de la grande propriété foncière, contrôle de la production par les travailleurs et création d'un gouvernement soviétique, a définitivement triomphé. Vive la révolution des ouvriers, des soldats et des paysans.
Attention, ici sur la place d'un escalier, il y a toujours des provocateurs qui tirent par les fenêtres.
10 days that shook the world. 10 jours qui ébranlèrent le monde, de John Reed. Adapté par Michel Sidorov. 6e épisode, la chute du gouvernement provisoire. Avec Pierre-Marie Baudouin, John Reed, Flora Brunier, Louis Bryant, Nicolas Struve, Bill Chatoff, Julien Barret, Albert Rhys-Williams, Bruno Alain, Liev Kamenev, Laurent Lederer, Gomberg, Bertrand Suarez-Pazos, Max Eastman, et Aurélien Carbou, Nikita Osachi, David Gessel, Benjamin Nissen, Tin Lay, Charles Urez, Samuel Charles, Dali Ben Salah. Musique originale, Sylvain Cassap. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Dalia, Mathieu Leroux, Olivier Dupré et Benjamin Vignal. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Michel Sidorov. Enregistré en juillet 2017 à Paris, en studio et en appartement, à la Bourse du Travail et à la mairie du Kremlin-Bicêtre.
pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protégez le climat et pas le capital! Protégez le climat et pas le capital! Protégez le climat et pas le capital! Protégez le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrig, à Montpellier, Canastille, à Toulouse, avec bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi libertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.